bi
po
l'air be
folle.
Bipolaire befolle, itinéraire d'une corsaire de la psyché. C'est le nom d'un premier roman et d'une fiction radio écrite, produite et réalisée par Patricia Ancens, journaliste pour l'économie solidaire et animatrice d'une émission depuis quelques années sur Radio Campus Lille. Dans ce récit très touchant, on suit Aurélie qui, à 50 ans, découvre sa bipolarité et on l'accompagne dans son parcours de soins, ses rechutes, ses réflexions, ses doutes. Patricia Ancens commence par nous parler du point de départ de cette histoire.
On va dire que c'est parti d'une expérience personnelle. Et voilà, j'ai fait un burn-out. Et je me suis retrouvée à un moment donné dans un hôpital de jour, enfin dans l'univers psychiatrique. Et j'ai vécu de la maltraitance. Enfin, je dis souvent que c'était un peu vol au-dessus d'un nid de coucou, avec effectivement un environnement très... très désagréable, très maltraitant, et après j'ai suivi mon parcours, ça a été mieux, et j'ai voulu me venger en fait, ces infirmières qui étaient horribles avec moi et avec les autres, et donc j'ai dit ouais, c'est vraiment dégueulasse, je vais écrire quelque chose, donc j'ai commencé à écrire un texte, et puis ça m'a fait du bien, et après j'ai dit ben tiens, je vais continuer, et du coup je me suis mise à écrire un récit. Et puis voilà, qui est en gros, maintenant je dis en partie autobiographique, parce que j'ai pris aussi des témoignages un peu autour de moi, j'ai imaginé certaines situations, donc c'est pas entièrement autobiographique, mais ça retrace le parcours donc d'une personne qui fait un burn-out à un moment donné, comme on dit aujourd'hui, et qui pète un plomb, et qui se retrouve du coup dans cet univers-là, avec une situation qui est difficile. Et du coup, qui passe par toutes les étapes, du parcours, quoi, de l'hôpital psychiatrique, ensuite à des hôpitaux de jour, la formation, tout le parcours du rétablissement et la découverte aussi de plein de ressources et d'accompagnement qui existent et qui sont pas assez connus. Et qui font que ça l'a accompagnée dans toute cette trajectoire. Et puis, ça se termine bien. donc ça a donné un petit roman. À partir de là, je me suis dit, tiens, je connais des illustratrices qui font des choses sympas, qui correspondent avec l'univers. Et voilà, donc je leur ai demandé si je pouvais piquer leurs illustrations. Elles m'ont dit oui. Puis entre deux, j'ai mis des petits poèmes, parce que ça me venait, c'est aussi un petit peu ce que j'aime bien faire. Donc j'ai fait une espèce de patchwork avec le récit, les poèmes et puis les illustrations. Quand je me suis dit, tiens, je vais l'auto-éditer, dans le même élan, comme je fais de la radio, je me suis dit, ah tiens, ça serait rigolo de faire la fiction radio, donc une lecture toute simple du texte. Et en même temps, d'entrelarder tout ça avec de la musique et puis des descriptions, des illustrations par des copines, des copains. Et donc, ces illustrations, on ne pouvait pas les voir forcément par le biais de la radio. Et j'ai trouvé ça rigolo de faire appel à des gens qui décrivaient à leur manière ces illustrations. Et en plus, ça donne un côté collectif à la chose qui ne m'a pas déplu non plus.
Oui, c'est ce que j'allais dire. En tout cas, ça prend la forme d'un récit intime, très, très intime. Mais en même temps, il y a toute cette démarche collective avec toutes ces personnes que tu fais intervenir tout au long du récit.
Voilà. Et en fait, ça fait une vingtaine de personnes quand même. Donc, ça a été aussi tout un boulot d'aller les voir et puis leur demander de lire des petits passages, de décrire ces illustrations. Ça a été d'ailleurs un peu compliqué par moments parce que je leur demandais de décrire les illustrations à certains moments, puisque je plaçais les illustrations à certains moments du texte. Donc pour moi, une illustration qui avait une évocation très dramatique, par exemple pour une personne, c'était quelque chose de très gai. Donc j'ai dû corriger le tir. Donc au départ, je leur disais, décrivez comme vous le voulez, soyez libres. Et après, je disais, non, là, ça va pas, il va falloir que tu dises que c'est sombre, en fait. Donc il y a eu des ajustements aussi.
Ça y est, J'ai encore perdu mes ailes. Je les avais bien rangées pour une fois.
Je m'appelle Aurélie. J'ai 30 ans et ma vie est toute chamboulée. J'ai rencontré celui qui est mon amoureux. Je rayonne, la vie est une joie. Mais bientôt, ça se gâte. J'essaie de tenir, mais ça craquelle de partout. Je m'effondre. Pour sauver mon cœur qui manque à exploser en 1000 morceaux, je sors de moi-même. Me pousse vers les autres et vers un autre horizon. Ouf, ça va mieux. Je m'appelle Aurélie, j'ai 50 ans et j'ai encore voulu escalader des montagnes trop hautes pour moi. J'ai chuté grave, mais là, j'ai eu du mal à me relever. Il a fallu beaucoup de soins et j'en garde des séquelles. Je suis handicapée, mais j'ai davantage appris depuis cette chute que durant toute ma vie d'avant. Maintenant, je lâche prise quand ça commence à partir en sucette. Je suis devenue moi et j'en reste couette.
On est toujours avec Patricia Ancens, autrice du roman et de la fiction radio Bipolherbe folle. Elle nous parle maintenant du processus d'écriture de ce récit.
Mais en fait, c'était très compliqué puisque je racontais un peu au fur et à mesure quand même ce qui se passait pour moi. Et donc ça a commencé en 2019, là on est en 2024. Donc c'est un petit peu le bordel en fait, mon texte. C'est un peu le bordel parce que j'écrivais comme ça au fur et à mesure. Des fois je faisais des flashbacks en me disant ben, « tiens là, je pourrais revenir à je sais pas quoi, à son enfance ou une période précédente ». Donc c'était pour moi pas forcément toujours très clair et je me disais « tiens, le lecteur, est-ce qu'il va s'y perdre ?» Et en plus, il y avait ces petits poèmes que je voulais mettre absolument à l'intérieur et il fallait que je me dise « tiens, là, j'ai écrit quelque chose, ça vaut peut-être le coup de le mettre quelque part, mais à quel endroit le mettre ?» Donc c'est vraiment très aléatoire comme chose, ça n'a pas été du tout réfléchi en fait. Donc à la fin, j'ai quand même relu, je me suis dit « bon là, ça va pas ». Et après, je ne suis pas une romancière, donc j'ai écrit un récit et j'ai essayé de faire en sorte que ça soit à peu près lisible. Enfin, à chaque fois, moi, en étant journaliste, j'ai le réflexe de penser au lecteur et puis de me dire, voilà, faut que ça soit cohérent, faut que les gens aient envie de lire aussi. Donc, faut alterner des dialogues et puis des moments où c'est plus du récit. Et puis, moi, j'aime bien aussi jouer avec les mots, donc ça... C'est important aussi pour moi que ça soit des fois des inventions de mots, des métaphores, enfin je parle du corsaire parce que voilà, donc il y a tout l'univers du corsaire qui est aussi dedans quoi.
C'est un témoignage super émouvant, je pense que toutes celles et ceux qui ont écouté ou qui vont écouter ça trouveront ça très, très émouvant. C'est un témoignage rare aussi, un témoignage de l'intérieur. Est-ce que tu connais d'autres personnes qui ont témoigné? Est-ce que tu connais d'autres œuvres aussi qui ont ce point de vue?
C'est clair, j'ai eu le diagnostic de bipolarité suite à cet épisode dépressif et puis ensuite une période, on va dire, on appelle ça hypomaniaque. Enfin voilà, j'étais très énervée, très enthousiaste, mais un peu trop. Donc c'est suite à ça que le diagnostic a été posé. Donc moi, je le revendique. Je souffre d'un trouble bipolaire comme 5% de la population, ce qui veut dire une personne sur 20. Donc tout le monde connaît quelqu'un qui a cette maladie, peut-être sans le revendiquer ou le dire ou en être conscient. Et voilà, en ayant, on va dire, eu cette révélation, en tout cas, quand on m'a dit que c'était ça, le problème, quelque part, ça m'a rassurée parce qu'effectivement, je ne comprenais pas pourquoi il y avait des hauts et des bas. Et en plus, effectivement, après, j'ai rencontré des personnes qui étaient aussi, qui souffraient de bipolarité. Mon frère souffre de ça aussi depuis longtemps. Moi, maintenant, ça me paraît important de témoigner de ça aussi, de partager cette expérience-là aussi pour les personnes qui peut-être ont un trouble bipolaire, peut-être aussi pour d'autres personnes qui font un burn-out tout simplement et qui ont tout un parcours de rétablissement qui... pour moi, il y a des choses, en tout cas, qui peuvent parler à d'autres personnes qui sont aussi dans des situations difficiles ou de vulnérabilité. Et chacun peut vivre ça aussi aujourd'hui. Moi, je connais plein de gens qui font des burn-out dans un monde du travail qui est très dur. Donc je pense que ça peut parler à ces personnes. Et encore une fois, pour moi, c'est vraiment l'idée de partager ce parcours, cette expérience d'un parcours et de ressources qu'on peut trouver sur la voie du rétablissement. J'en parle effectivement de toutes ces ressources qui existent et que beaucoup de personnes ne connaissent pas, comme effectivement l'éducation thérapeutique du patient, qui est une formation pour comprendre sa maladie, que ce soit le trouble bipolaire ou la dépression ou d'autres choses. Il y a les initiatives comme les groupements d'entraide mutuelle. Il y a la MGEN qui a un hôpital de jour pour tout le monde, pas seulement pour les profs, et qui mène des actions très innovantes là-dessus. Il y a une formation rétablissement qui est faite par les personnes concernées, pour les personnes concernées. Enfin, il y a tout un univers qui est super intéressant. Et voilà, donc j'en parle justement pour faire connaître tout ça.
Plonger dans le vide, s'en délecter. Plonger dans la vie, s'en dépêtrer. Éponger le vide, l'essorer, le lâcher et repartir. Vibrante, marchante, vivante.
Je souffle un trouble bipolaire, mais il reste coincé. Essaye de le susurrer.
Dans l'histoire, on doit faire des allers-retours entre le travail et puis les moments où tu es en arrêt. Ce qui parfois dure un peu, c'est le regard des autres au travail. Comment tu vois ça? Quelle solution peut-être tu as trouvé, toi, dans ton parcours par rapport à ça?
Oui, je dois dire qu'effectivement, c'était difficile aussi quand j'étais pas bien de me retrouver dans un environnement de travail. Et quand on n'est pas bien, forcément, les autres fuient ou bien sont un peu gênés aussi. Donc les relations ne sont pas simples. Ce qui fait que quand je suis vraiment revenue au travail et que ça allait mieux, j'ai proposé que les infirmiers qui m'avaient accompagnée viennent témoigner, viennent expliquer à mes collègues ce que c'était le trouble bipolaire et parler aussi de la vulnérabilité de chacun, ce qui était assez malin parce que ça pouvait parler aussi à mes collègues de leur propre vulnérabilité. Et donc ça a été quelque chose de vraiment chouette, vraiment intéressant. Du coup, on en a parlé aussi de ce que c'était notre vulnérabilité, comment on pouvait aussi se protéger, comment on pouvait protéger les autres, ce qui fait qu'ensuite, on va faire une formation de brevet de secouriste à la santé mentale avec plusieurs collègues. Et donc, cette formation permet aussi de détecter chez les proches, chez les autres, chez ses collègues, une difficulté qu'elle pourrait avoir. Et d'intervenir, donc de mieux comprendre déjà, d'arriver à détecter ce qui se passe et d'agir ensuite. Et encore une fois, le milieu du travail, il est dur, qu'on connaît de plus en plus de personnes aussi qui vont pas bien ou sont en dépression ou en burn-out. Et donc là, c'est vraiment un moyen d'agir pour faire évoluer les choses et faire en sorte que les personnes qui sont pas bien ne se retrouvent pas isolées ou... et on arrête de travailler parce que ça ne va plus du tout. Ce matin, elle a participé aux premiers soins, comme disent les blouses blanches. Randonnée collective avec Schizophile, son infirmière référente. Marche l'un derrière l'autre le long d'un canal, dans ce foutu silence. Dingue ! À elle qui adore être en relation, qui quête du doux, du lien, du cotonneux, on lui balance une prison froide peuplée de zombies. Sur le chemin, elle tente de parler à l'un des marcheurs pour s'intégrer dans le groupe. Pas de réponse, comme si elle n'existait pas. En désespoir de cause, elle interpelle Schizophile. Pourquoi il ne parle pas ? Cinglante. Vous n'avez pas embêté les autres patients. Occupez-vous de vous. Le soin consiste à marcher. Même pas choqué, juste interloqué. Tant de sollicitude. Non, non, mettre l'ironie en jachère, pas le moment. Elle suit donc la troupe, bouche close.
Tu as dit tout à l'heure, tu as commencé par ça, avoir dit que ça avait commencé par une colère. Une colère aussi par rapport au monde du soin psychiatrique qui est en crise depuis longtemps. En France, il y a beaucoup de gens qui témoignent de ça. Il y a aussi un historique lourd du soin psychiatrique en France et ailleurs. Et toi, tu témoignes de ça, de cette situation-là ? Comment tu vois un petit peu les choses par rapport à ça ?
Moi, j'ai découvert effectivement cette situation. Alors, ce n'est pas le cas partout, puisque moi, j'étais dans un hôpital de jour particulier, dans lequel il y avait vraiment de la maltraitance. Ce n'est pas le cas partout. Je suis passée aussi par un autre hôpital qui est privé, dans lequel effectivement ça se passait mieux, mais en même temps c'était plutôt destiné à des gens qui avaient les moyens. Et moi je me suis retrouvée dans l'hôpital de jour public où c'était plutôt des personnes qui n'avaient pas les moyens d'aller ailleurs. Donc j'ai découvert plusieurs univers. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des améliorations. Enfin, moi, j'ai participé à un colloque la semaine dernière sur la psychiatrie. Et en fait, le thème du colloque, c'était la place des usagers dans la santé mentale. Aujourd'hui, ça évolue. Pas partout, mais ça évolue. Peut-être avec pas tellement de moyens, voire moins de moyens. Mais il y a des choses qui évoluent tout de même. Et aujourd'hui, on parle de pair aidance, de médiateur de santé pair, qui intègrent toutes ces structures, qui sont des personnes qui ont un parcours dans la psychiatrie, et qui alors sont rétablis, sont stabilisés, enfin il y a plein de mots pour dire ça, mais en tout cas vont mieux et partagent leur expérience dans ces lieux, dans les hôpitaux de jour. Elles sont payées pour partager leur expérience et aider aussi les autres, en partant de ce principe qu'entre pairs, on se comprend aussi mieux. Donc il faut qu'elles fassent aussi leur place à côté des infirmiers, des soignants, etc., qu'ils les acceptent. Mais quand ça marche, ça donne vraiment des choses intéressantes.
Une femme en linge de corps couchée dans l'herbe, habillée de blanc, au milieu de nuages posés par terre, reflétant à la fois le ciel et les arbres. Elle est seule, tranquille et perdue à la fois.
Vous écoutez toujours un entretien avec Patricia Ancens, entretien ponctué d'extraits de la fiction radio Bipolherbe folle, itinéraire d'une corsaire de la psyché.
Tout à l'heure, tu parlais d'un colloque sur le thème de la place des usagers dans les structures de santé mentale. C'est ça. Ça se passait à Arras. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ce qui s'est passé? Est-ce que les usagers, ou je ne sais pas comment tu veux appeler les personnes qui ont des troubles de santé mentale, comment ces personnes-là souhaitent qu'on les appelle, mais comment elles revendiquent aussi cette place? Qu'on les entende, qu'on prenne en considération leur point de vue.
Alors effectivement, il y a le vocabulaire qui est utilisé, hein, qui est significatif, signifiant. Et effectivement, auparavant, on parlait de patients. Ensuite, on a parlé d'usagers. Et maintenant, les gens qui ont un trouble psychique, maintenant veulent qu'on les appelle. En tout cas, c'est un peu le vocabulaire qui évolue et on parle comme ça. Maintenant, on dit les personnes concernées. Alors le terme n'est pas forcément terrible, mais en tout cas on ne parle plus d'usager qui peut faire penser à quelqu'un d'usager, ni de patient, parce que du coup c'est un peu quelqu'un qui est en dessous, personne concernée. En fait, l'idée, c'est de se mettre de se positionner au même niveau que les soignants dans la façon dont on est traité. Et donc, dans ce colloque, ce qui était vraiment intéressant, c'est un colloque qui rassemble habituellement des psychiatres, des gens qui ont des soignants, des gens qui travaillent dans la santé mentale, ou le psychosocial ou le social, qui, du coup, s'occupent de ces personnes concernées. Et là, en fait, il y a eu beaucoup de personnes concernées qui sont venues par différents réseaux, notamment ceux que j'ai cités tout à l'heure, du rétablissement, des associations, etc. Et souvent, on dit la représentation des personnes concernées dans la santé mentale est importante, mais les représentants des usagers dans les instances un peu de concertation, essentiellement, ce sont des familles qui font partie d'associations et pas les personnes vraiment concernées. Et souvent, ce qu'on dit, mais les personnes concernées ne viennent pas dans ces instances, elles ne sont pas intéressées. Mais non, en fait, du coup, il y a plein de gens qui sont venus qui sont des personnes concernées, qui ont dit « Mais non, nous, on existe, vous pouvez nous solliciter, on est là, on a des choses à dire. » Et elles ont lu un manifeste qu'elles avaient coécrit ensemble, qui disait tout ça, et qui était vraiment intéressant. Elles étaient une vingtaine à la tribune, à déclamer ce texte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les organisateurs du colloque ont dit qu'ils tiendraient compte de tout ça, qu'effectivement, les contenus étaient très riches, et qu'il y a des initiatives qui sont vraiment innovantes en la matière. On parlait notamment d'une initiative qui se trouve du côté de Lyon. Et donc, c'est une organisation qui s'occupe de la psychiatrie qui visait à faciliter justement la représentation des personnes concernées dans les instances, mais en réfléchissant sur comment organiser cette participation, comment faire en sorte que ces personnes, justement, se sentent bien, soient bien accueillies et puissent parler au même niveau que les soignants, ce qui n'est pas vraiment évident. Donc là, il y a plein de choses qui se font, qui sont très intéressantes, dont il faudrait s'inspirer.
Ilia.
Celles que tu gênes, qui ne supportent pas ton mal-être, qu'est-ce que ça leur envoie, qui te griffent et tournent le couteau dans la plaie, que tu supportes, 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 insupportes, claque la porte.
Celles que tu agrippes des mains et des pieds, à l'aide, qui s'enfuient, trop peur, de trop de malheur.
Celles que tu aimes et qui te le rendent bien.
Celles qui te tranquillisent, balade au parc, regarde les canards, l'eau bleue, le ciel, qui te reflète.
Celle qui t'héberge, drap bien plié, feu dans l'âtre, parole, intimité.
Celle qui te recadre quand tu pars en vrille, te ramène sur terre. Hé, redescends.
Celle qui a toujours des idées, sème des graines, t'aide à te relever, à remarcher.
Celle qui te parle, celle qui t'écoute.
Celle qui, grandes conversations et grandes marches, partage tant de choses qui te ressemblent.
Celle qui te prend dans ses bras. Celle qui danse et virevolte, celle qui te fait chanter.
Celle qui met ses pas dans les tiens et tes pas dans les siens.
Elles te remplissent, te gorgent de vie, d'espoir et d'amitié.
Et réciproquement.
There is a crack in everything. That's how the light gets in.
Leonard Cohen.
En toute chose, il y a une faille. C'est ainsi qu'entre la lumière.
Tu voulais nous parler de quelque chose en particulier, le kintsugi, c'est ça ?
Oui, alors le kintsugi, c'est un infirmier de la MGUN qui a évoqué cette métaphore. En fait, le kintsugi, c'est un bol, au Japon, c'est les Japonais qui font ça. C'est un bol qui a été cassé et que, en fait, qui répare avec de la poudre d'or, ce qui fait que on voit les cassures, mais avec cette poudre d'or très jolie qui les recouvre. Et alors, ce qu'on dit, c'est que ce kintsugi est quelque chose d'unique, alors qu'auparavant, ça pouvait être un bol comme d'autres. Et que peut-être il est plus beau avec ces failles qui ont été retapées avec des espèces de pansements. Et donc, c'est un petit peu là, une métaphore qu'on utilise beaucoup en disant, parfois on a des failles dans l'existence, mais peut-être qu'après, alors est-ce qu'on en bave, hein, forcément. C'est pas, on aimerait bien ne pas avoir tout ça, mais en même temps, on sort transformé de ça et puis on va vers l'avant, quoi.
Patricia Ancens, autrice du roman et de la fiction Radio Bipolherbe Folle, itinéraire d'une corsaire de la psyché. Vous pouvez écouter ce récit ou rentrer en contact pour vous procurer le livre via le Bandcamp, lematourevient.bandcamp.com.
Il se croyait tout seul au monde, quand le hasard c'est un monde, au bout du monde, au même endroit, les entraîna.
Et puis je vous signale aussi que Radio PFM diffuse cette série dans notre émission Attention les oreilles. Donc c'est sur le 99.9 chaque mardi à 23h, le jeudi à 16h, le dimanche matin à 10h. Patricia sera sans doute aussi de passage par Arras lors de notre festival de l'écoute et de la radio. Ça sera en juillet si tout se passe bien. Vous pourrez échanger avec elle, vous procurer le bouquin si vous voulez. On vous tiendra au courant de la date dès que possible.
Mais se résigner à ne pas en faire un monde. ficelles en gerre pour voir tomber la nuit. Au bout du monde, ils échangèrent un regard attendri. Et comme ils étaient seuls au monde, ils se rappelèrent chaque soir les loups, les corbeaux, les renards et les chansons pour mieux s'endormir dans le noir. Ils s'inventèrent un peu plus tard un petit monde sans histoire, l'un contre l'autre un peu plus serré chaque soir. Au bout du compte, ils échangèrent un regard entendu. Au bout du monde, en un clin d'œil, ils furent tout à fait nus. Et comme ils étaient seuls au monde. Un beau matin, debout de monde, fatigué de refaire le monde, ils décidèrent à l'unisson de tout quitter. Rêvant des rives du vieux monde, partis pour faire le tour du monde, ils s'arrêtèrent au bout d'une demi-journée. Le bord du monde était suspendu dans l'immensité. Un bout de monde, c'était vraiment tout ce qu'il en restait. Au bord du monde, ils s'allongèrent pour voir tomber la nuit. Au bout du monde, ils échangèrent un regard attendri. Et comme ils étaient seuls au thank you.